En sciences humaines, les mauvaises manières prévalent sur les bonnes. Il faut donc se mêler de ce qui ne nous regarde pas. La référence à Marc Bloch est essentielle à Stéphane Gillet, docteur en philosophie et diplômé de Sciences Po, dont la démarche se traduit par Erudis, la société de conférences et de séminaires qu'il a créée, à des fins d'application sur le terrain.
Stéphane Gillet, le hasard a voulu que j'aille à Levallois-Perret écouter une de vos conférences sur l'eau, tout simplement. Nous sommes sur Radio Éthique, et c'est comme ça qu'est venue l'idée de vous interviewer, de vous retrouver ensuite, parce que j'ai trouvé ça fort intéressant, et je me suis interrogée sur Erudis.
Erudis est une entreprise qui se veut le spécialiste de la conférence, une entreprise qui a été créée en 2008. Dans un monde en pleine crise économique et en quête de repères, eh bien, Erudis propose un choix de conférences, de séminaires économiques et culturels qui permet de prendre du recul. Prendre du recul, ça veut dire aussi réfléchir et mieux repartir.
Comment est-ce que tout ça a eu lieu? Parce qu'en fait, Erudis, c'est vous qui l'avez créé, c'est votre entreprise.
Exactement. Erudis vient de la vérité de communiquer la connaissance, l'érudition. Le IS est un petit clin d'œil aux artistes du XVIIe siècle en Italie qui latinisaient leur nom. Pensez à Stradivari qui signait Stradivarius. Erudis a le souhait de traiter des thèmes économiques, des thèmes financiers, toujours en rapport avec l'éthique de l'individu. C'est l'éthique des affaires, c'est la déontologie, un thème très en vogue et nécessaire de nos jours.
Parlons un petit peu de vous. Vous avez fait des études. Vous étiez entre guillemets au chaud dans une grande entreprise. Vous auriez fort bien pu y rester.
J'étais en effet au chaud puisqu'il s'agissait des thermotechniques, les techniques de chauffage et de chaude sanitaire. Je me suis occupé, basé en Allemagne et puis aux États-Unis et puis en France, des énergies renouvelables pour différents groupes européens. J'étais également en charge du développement durable, en charge du lobbying de mes employeurs. J'ai voulu conserver cet acquis tout en apportant ma touche passionnée, philosophique. Réfléchir, prendre du recul sur toutes ces démarches d'entreprise.
Vous êtes d'abord très modestement retourné sur les bancs de l'école pour parfaire vos connaissances.
J'ai eu une formation de commerce que j'ai acquise en interne dans ces différents groupes, mais en parallèle, je n'ai jamais abandonné mes premiers amours qui sont l'histoire, la philosophie. En parallèle à mes fonctions en marketing et avec mes responsabilités commerciales, je menais une thèse de philosophie dont le sujet est la responsabilité de l'individu au sein du groupe.
Ça vous préoccupe littéralement?
Oui, parce que dans chaque démarche, qu'elle soit professionnelle ou privée, à mon sens, ce qui est essentiel pour la fierté de l'homme, c'est d'avoir un sentiment de responsabilité. Et ça passe par une démarche individuelle qui nécessite, c'est le corollaire de la responsabilité, une certaine liberté. En entreprise, on ne parle pas de liberté, on parle d'autonomie.
Quel type de conférence est-ce que vous proposez?
Des conférences, mais également des séminaires en éthique des affaires, en management, développement durable, environnement, destiné aux entreprises et aux écoles de commerce. Également des conférences en histoire, philosophie, civilisation, courant de pensée, destinés aux centres culturels, mais aussi à des hôtels de standing ou des événementiels. Un troisième type de client, eh bien, ce sont les résidences de retraite. Il y a une véritable niche, une demande croissante au sein des résidences de retraite pour des animations purement culturelles et pas seulement de bien-être. Alors ce sont des cafés philo, des débats historiques, des excursions historiques en particulier.
Ça embrèche une idée, c'est que ce sont des personnes qui ont gardé une énorme curiosité par rapport au monde d'aujourd'hui.
Ce sont des personnes qui permettent de nous apprendre énormément sur nous-mêmes, sur la société. Il ne faut pas garder à l'esprit cette mauvaise image de personnes âgées atteintes d'Alzheimer en maison de retraite. Il y a énormément de personnes qui sont très vives d'esprit, qui les dernières années, lors de leur retraite encore mobile, non seulement ont pu se cultiver, mais également voyager, et ils ont un apport extrêmement enrichissant. Alors, toutes ces conférences, comme je viens de citer, nous les donnons grâce à un réseau large de conférenciers, chacun spécialiste de ces sujets.
Dans le domaine environnemental, est-ce qu'il y a des sujets qui vous sont plus demandés que d'autres?
Ce qui est en forte demande, ce sont les grandes questions de l'environnement. Qu'est-ce que le développement durable, bien sûr? On se pose la question de l'écologie contre l'économie. L'économie verte, est-ce vraiment un nouveau modèle pour l'entreprise? On nous demande de présenter un point sur le commerce équitable également, mais on aborde des thèmes beaucoup plus spécialisés, liés par exemple au changement climatique. Ou alors, un sujet passionnant, c'est celui de la question de l'eau.
C'est une question cruciale. Hein.
Sans eau, pas de vie.
Mais ce qui m'a frappé dans votre conférence, c'est d'abord la qualité du public, tout simplement un public d'habitants de Levallois-Perret. Quant à votre conférence, c'était la dimension historique qui a d'ailleurs passionné les gens. Vous balayez bien les sujets.
L'eau est souvent traitée par un seul aspect. On connaît bien la dimension géopolitique de l'eau. Ne serait-ce que penser aux conflits autour du Jourdain, du Rio Grande, Grandet, le Tigre et l'Euphrate. On parle aussi souvent de l'eau du point de vue environnemental, c'est-à-dire qu'on aborde des questions techniques, le nitrate, la fonte des glaces. L'eau, c'est un tout et ça appartient à notre patrimoine culturel. L'eau est une source, au sens propre du terme, et figurée de légendes, de traditions populaires. Chaque village a sa source, empreinte d'histoire, des sources qui servaient de filtre d'amour, qui servaient à ensorceler, à aller voir la forêt de Brocéliande avec sa fontaine. Donc, lorsque l'on propose avec Érudis des conférences, on met un point d'honneur à proposer ces sujets sous une approche pluridisciplinaire. Lorsque l'on traite des sujets de société, il ne faut pas se limiter à la science politique ni à la philosophie. Il faut aussi y apporter une touche de psychologie, une touche d'anthropologie, d'histoire, bien sûr. C'est l'approche qui permet de mieux comprendre les sciences humaines. Marc Bloch disait, en sciences humaines, les mauvaises manières prévalent. Il faut s'occuper de ce qui ne nous regarde pas.
Est-ce que vous pouvez rappeler quelle est l'origine du nom Paris ?
Paris vient du nom Parisis, ce qui signifie la barque en gaulois de Isis. C'est une légende qui se réfère au mythe d'Isis et d'Osiris, un mythe de fécondité du Nil. La tradition des vierges noires s'est répandue partout en Occident. Elle a été adoptée notamment par les confréries de bateliers, ceux qu'on appelait les nôtes, qui vivaient non seulement à Lutèce, c'est-à-dire le Nanterre actuel, mais aussi à Paris. Le monument le plus ancien de Paris est le pilier des nôtes, conservé au musée de Cluny. Eh bien, ces nôtes vénéraient un culte à la déesse Isis. La raison pour laquelle on les appelait les Parisis.
Les Monégasques qui le savent maintenant viendront d'autant plus volontiers, ça nous fera bien plaisir en tous les cas. Les voilà convaincus s'il en était que vos conférences sont aussi des conférences largement culturelles.
Avec les conférences culturelles, il s'agit vraiment d'une tendance claire de société. Soigner son esprit, cultiver ses connaissances sont devenues aujourd'hui une nécessité.
Est-ce que vous ressentez ça ? Moi je l'ai un petit peu senti, cette nécessité que quelqu'un, à nouveau, un être humain, vienne vous raconter les choses. Après tout, tout ce que vous dites, on pourrait le retrouver sur Internet par soi-même.
Parler, c'est bien. Aussi enrichissant que raconter un beau récit, c'est savoir écouter. C'est ce qui rend une culture, une civilisation enrichissante et aussi ce qui donne de la valeur aux personnes. Alors, avec nos conférenciers, on a beaucoup de contacts, en particulier avec les personnes âgées. Ce sont des personnes extrêmement enrichissantes parce que elles ont vécu des étapes de l'histoire marquantes, les guerres, mais c'est aussi des personnes qui permettent de comprendre qu'il y a certains individus qui s'intéressent à la culture en particulier et d'autres qui s'y intéresseront jamais.
Ce qui laisse de l'espoir. Est-ce qu'il y a un profil type de votre public ?
Pour le développement durable, ce sont les entreprises, les écoles de commerce. Nous enseignons dans des écoles le développement durable, l'éthique des affaires. Nous avons des clients comme HEC, Sciences Po. Pour les conférences culturelles, eh bien le public, je dirais, est plutôt féminin. Il est moderne, il est urbain et il est pressé. C'est un public dynamique et curieux qui n'hésite pas à utiliser son temps libre pour se cultiver. D'ailleurs, trop de personnes n'osent pas ouvrir la bouche dans les dîners ou dès qu'une discussion aborde l'histoire ou les grands thèmes de société. Ces sujets les intéressent pourtant, mais elles ont peur. Alors elles veulent comprendre. Ces personnes veulent s'enrichir, à la fois sur les plans culturels et émotionnels. Elles ne sont pas dupes non plus. Du vernis, on peut dire, intellectuel qui est proposé à la télévision. Grâce à des thèmes riches et variés, Érudis tente de proposer des solutions pratiques pour combler justement ce besoin d'instruction et ce repère culturel.
Géographiquement, vous êtes basé à Paris ?
Basé à Paris, pour des questions pratiques, nous avons des conférenciers partout en France. Par exemple, nous travaillons avec EADS à Toulouse, où il y a aussi des écoles de commerce. À Nice, là c'est l'animation culturelle essentiellement, mais nous travaillons également en Europe, en Allemagne, en Hollande, au Luxembourg. À cet égard, le réseau lié aux ambassades de France des instituts culturels est très riche, propose des conférences régulièrement et fait appel à nos services.
Si quelqu'un veut que quelqu'un de chez vous fasse une conférence à Nice, comment est-ce qu'il s'y prend ?
Le mieux est de regarder Érudis, Érudis.eu. Vous verrez un choix de conférences, des thèmes transversaux également, mais ce ne sont pas des listes exhaustives. Contactez-nous. Et nous aurons le plaisir de vous faire des propositions et de discuter avec vous des thèmes envisagés.
Vous avez cette vision du monde, quitte éventuellement à peut-être provisoirement, on va dire, à oser moins gagner votre vie. C'est un véritable engagement intellectuel que vous avez.
Oui, pour moi, la philosophie de sa propre vie, mais aussi de la société, doit être appliquée en permanence à ses actions dans l'économie. économie, finance. C'est-à-dire qu'il ne faut pas opérer de dichotomie entre la vie professionnelle et la vie privée. J'ai mis du temps à intégrer ce courage de penser. Pour moi, le domaine de l'éthique des affaires intègre parfaitement cette approche des choses. Lorsque l'on veut avoir une attitude morale dans ses engagements professionnels, eh bien, charité bien ordonnée passe par soi-même. Il faut d'abord commencer à faire le ménage pour soi-même. Ça entraîne une certaine honnêteté de soi, c'est au début un effort mais après une grande satisfaction. Il y a beaucoup de gens qui souhaitent s'engager dans cette démarche mais qui sont mal à l'aise dans leur entreprise. Ils doivent accepter de leur hiérarchie des décisions qui ne les satisfont pas du tout du point de vue moral. Avec nos séminaires, avec nos conférences en éthique d'entreprise, eh bien justement on montre que adopter une démarche éthique, le courage, la prudence, la responsabilité, c'est profitable pour l'entreprise. Ça permet à l'entreprise d'atteindre un leadership, une supériorité sur les autres entreprises qui n'ont pas fait cette démarche intellectuelle. Respecter ses engagements, que ce soit sur le plan de l'honnêteté ou des délais ou de la qualité, eh bien ça permet d'avoir des meilleures relations avec ses clients, avec ses partenaires et avec ses employés en interne. Et le bénéfice est direct.
On peut très bien être bien dans sa vie et bien dans son activité professionnelle.
Une entreprise peut être extrêmement viable tout en respectant des codes éthiques relativement poussés. Sur le plan individuel, pour que chacun puisse mettre en application ses principes, cela demande des parcours différents. Me concernant, il a fallu déjà que je travaille une quinzaine d'années dans différents groupes pour avoir le courage de donner mon point de vue, d'assumer mes convictions, même si elles pouvaient sembler de prime abord naïves, trop honnêtes, dans des mondes de requins ou de loups. Je n'aurais pas pu continuer à me taire lorsque des décisions étaient prises, comme par exemple, on me demandait de renvoyer des personnes de mon équipe, bien que j'avais une grande confiance dans ces personnes. Bon, ça me mettait très mal à l'aise, mais je suivais le motto qu'il faut écouter sa hiérarchie et qu'une entreprise fonctionne bien lorsqu'elle est disciplinée. Si c'était à refaire, eh bien, je taperais davantage du poing sur la table.
Vous êtes docteur en philosophie. Est-ce qu'il y a une philosophie en particulier qui vous habite?
Oui, la philosophie de la responsabilité, en particulier la responsabilité individuelle. C'est seulement lorsque chacun se sent responsable de ses affaires, mais aussi des affaires communes, que la société pourra avancer. On peut adopter une attitude de personnaliste moral. C'est-à-dire, on ne parle pas de responsabilité collective pour excuser tous les méfaits de la société, mais on se dit, d'abord, moi je dois me donner l'exemple, même si les autres ne suivent pas, il faut quand même que j'avance, et à la fin, si chacun y met du sien, on y arrivera tous ensemble.